Voix enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantée, l'émission qui permet de retrouver chaque mois un ou une invitée qui vient nous parler de ses goûts artistiques, nous lire un texte personnel et partager en fin d'émission une bribe de phrase marquante. C'est la cinquième saison qui continue et je suis ravie d'accueillir au studio Robin. Bonjour à toi.
Salut, merci.
Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes ?
Alors moi je suis musicien professionnel et enseignant. Donc en fait, tout ce que je vais faire principalement dans ma vie va tourner autour de la musique et de la création. À part le sport et la méditation, c'est assez centré sur ça, professionnellement et voilà, dans tout le reste. Quoi.
Passionnément, on pourrait dire.
Voilà.
Trop bien. Eh ben, on commence tout de suite avec ton choix d'artiste. L'émission s'ouvre avec une personnalité, un artiste qui, toi, te touche, t'intéresse particulièrement. Qui est-ce que tu as choisi ?
Moi, j'ai choisi David Lynch. Je suis complètement tombé amoureux de sa série Twin Peaks. Voilà. Et du coup, après, je me suis vraiment intéressé à tout ce qu'il avait fait en plus. Donc, tous ses films, évidemment. Mais aussi, il a fait de la musique. Il peignait aussi beaucoup. Donc, voilà, c'est plutôt pour le côté un peu multi-casquette.
Mais alors raconte-nous ce moment où tu tombes amoureux de Twin Peaks peut-être.
Ouais, en fait, je suis à ce moment-là, je connais pas du tout, mais je joue dans une compagnie de théâtre improvisé et en fait, donc c'est tout est improvisé et c'est calqué un peu sur l'univers de Twin Peaks. Donc moi, à ce moment-là, je connais pas trop. Ils me proposent de venir jouer avec eux, donc moi je fais la musique, donc j'improvise en live au moment où ils improvisent des scénettes. Et donc après, ils me disent, ils m'invitent à regarder évidemment Twin Peaks, ce que je fais. Je découvre un univers que je ne connaissais pas du tout, c'était il y a quelques années. Et j'ai trouvé ça, ouais, l'univers, comment il développe tous les personnages, le côté on pose un mystère mais on ne le résout pas, enfin toutes ces choses-là.
On va l'écouter dans une archive, c'était en 2007.
I wanna do stuff. I wanna live the art life and I wanna get on with it.
Je veux faire des choses, vivre la vie d'artiste et continuer avec tout ça. Et puis j'ai entendu cette phrase, le vrai bonheur n'est pas là-bas. Le vrai bonheur se trouve à l'intérieur. Et j'ai pensé, waouh, peut-être qu'il y a du vrai là-dedans. Mais la phrase ne dit pas où est cet intérieur et comment tu fais pour y accéder. Donc j'ai commencé à réfléchir à ça et un jour j'ai pensé, peut-être que la méditation permet d'atteindre cet intérieur. Alors j'ai fait des recherches et c'est à ce moment-là que ma sœur m'a appelée me disant qu'elle avait commencé la méditation transcendantale. Elle m'en a parlé et d'après ce que j'avais entendu et lu, ça avait l'air vraiment bien. Mais ce qui a été décisif, c'est le changement dans sa voix. Un bonheur. Et je peux en témoigner, c'est ma sœur. Et j'ai dit, c'est ça que je veux. Il y a tellement de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font. Leurs yeux sont rivés sur l'objectif, que ce soit l'argent ou autre. Et toutes les actions avant ça, c'est horrible pour eux de les faire. Avec la méditation transcendantale, tu éclaires ça de l'intérieur et tu commences à apprécier ce que tu fais, peu importe ce que c'est. Tu peux avoir un travail alimentaire et commencer à attraper des idées au vol. Il y a plein de nouvelles manières de faire ces choses quotidiennes. Plein de possibilités s'ouvrent à toi. Tu t'entends mieux avec les gens qui, soudainement, ont tous l'air plus beaux.
J'aime bien la petite note à la fin. Les gens ont l'air plus beaux quand tu fais de la méditation. Je voulais savoir, toi, Robin, ton rapport à ça, du coup. Est-ce que déjà tu savais, oui, tu me l'as dit, que Lynch était dans ça, la méditation ?
Ouais.
Mais c'est pas pour ça que tu l'as choisi, en tout
non.
cas. Une drôle de coïncidence.
Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Et c'est marrant parce que, en fait, je connais même pas bien la méditation transcendantale. J'avais regardé un petit peu, je sais que ça vient d'un gourou indien, il me semble, et que lui, il a fondé des écoles. Mais je pense que ça joue aussi sur nous, en fait. Après, ça dépend comment. Voilà, c'est un long chemin, mais en fait, il faut arriver à avoir de l'empathie. Moi, j'entends vraiment quelqu'un qui cherche plein de choses, qui crée toute la journée, qui met en place ce qu'il a dans la tête. Et il a une chaîne YouTube où il faisait le bulletin météo tous les jours là, pendant le Covid, et je crois qu'après, il a continué. En fait, juste ça, c'est assez marrant parce qu'il n'a pas besoin de faire ça, en fait.
Ça t'inspire? T'as envie de faire quelque chose? Tu le fais comme ça maintenant ou pas encore?
Non. En fait, là, pour le coup, moi, me filmer et me mettre en scène, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire.
Mais tu fais de la musique, tu crées, tu composes.
Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas beaucoup de gens qui m'écoutent ni rien. Et même quand je fais des concerts, ça reste assez petit. Tu vois, le fait d'être sur scène, surélevé par rapport au public, moi, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Parce que je viens pas là pour être supérieur, pour avoir une position supérieure et même me faire applaudir. Évidemment, c'est gentil et moi j'adore aussi applaudir les gens, mais enfin, tu vois, on n'applaudit pas le boulanger qui nous fait la baguette. Pourtant, si on bouffe pas à la fin de la journée, t'es bien emmerdé, tu vois. Donc, du coup, bon, mais après, c'est des réflexions un peu profondes, mais.
Ben c'est bien, on est là pour ça.
Voilà.
Et en plus, tu dis que t'es pas là pour te faire applaudir, mais pourtant, il y a ce côté où tu vas sur scène, donc il y a un paradoxe.
Exactement,
aussi.
Exactement.
On continue, merci beaucoup, en musique, avec ton coup de cœur musical. Tu as dû choisir un morceau parmi un panel infini. Pas facile. Est-ce que, avant que tu nous en parles, tu peux nous donner le nom du groupe et le titre du morceau ?
Ouais, le nom du groupe, c'est The Dirty Three. Et le morceau, c'est Love Changes Everything. One, dans le sens, parce qu'il y a tous les titres de l'album, c'est le même titre avec plusieurs parties, en fait. Donc là, c'est la première partie.
Merci pour ce choix et pourquoi ce morceau alors ?
J'écoute vraiment par album et donc là le morceau c'était pas évident. Pourquoi ? Parce que ce groupe finalement j'ai découvert assez récemment grâce à un ami qui s'appelle Sam et d'ailleurs qui m'a dit très récemment que ce groupe vient jouer en décembre à Paris. J'étais pas du tout au courant, ça fait faire 15 ans qu'ils ont pas tourné donc...
T'as pris tes billets du coup ?
Tout à fait. 10 secondes plus tard, j'avais mon billet. Ouais.
Trop bien.
Voilà. Et du coup, j'ai choisi ce groupe parce que j'aime. En fait, je connais très peu la scène australienne. C'est des Australiens. Je connais pas bien. Et en fait, j'aime beaucoup la manière dont ils jouent ensemble. On va dire que musicalement, ils ont vraiment un son de groupe particulier. C'est une instrumentation qui est assez particulière. Donc, c'est violon, guitare électrique et batterie. Mmh. Il y a vraiment ce côté anti. Anti-musiciens, un peu anti-performance, où ils n'ont pas de grosses performances techniques. Mais en fait, à trois, il y a quelque chose qui se crée qui est vraiment intéressant. Et ça a l'air toujours presque enregistré et fait un peu à l'arrache, en fait. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment un côté... C'est très spontané.
J'ai l'impression qu'il y a un côté à la fois un peu dissonant, où on va entendre toutes les textures du son, et à la fois virtuose. Tu dis un peu à l'arrache, mais enfin, c'est quand même une claque musicale qu'on se prend dans les oreilles, quoi.
Ah bah, tant mieux. Si c'est le cas, tant mieux. Non, mais je pense que j'ai dû trop écouter de virtuose, comme voilà, quand j'étais au conservatoire et tout. J'ai écouté vraiment des... Tu fais écouter ce violoniste, un violoniste classique, il y a quand même une forte chance qu'il ne fasse pas trop la différence entre un élève débutant et lui, quoi.
Ok.
Je pense. À certains moments. Ah, je me trompe peut-être, mais c'est... Enfin, pour moi, c'est presque un compliment, en fait. Il y a quelque chose de... Tu vois. Et en effet, sur la dissonance, tout à fait, il y a... Ouais, il s'est blindé de texture. Le batteur, il tient jamais vraiment des rythmes. Enfin, il s'arrête. Enfin, c'est hyper libre. Des fois, ils mettent du piano.
Mais peut-être que l'impression de... Je sais pas si c'est virtuose, mais en tout cas de maîtrise de... C'est des très bons musiciens. Peut venir de ce côté spontané, justement.
Tout à fait. Ouais.
C'est ça qui est intéressant.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais, complètement.
Est-ce que tu es dans ce style-là de musique ?
Ouais, ça dépend, mais de ce que je fais, de ce que je compose, c'est un des groupes qui m'a inspiré dernièrement. Et ouais, plus la philosophie, en fait, de créer des choses comme ça, un peu spontanées.
Et ça, il se passe quoi Bon, à chaque fois, je dis dans ta tête, mais là, c'est plutôt dans ton corps, dans ton cœur, quand t'écoutes ce morceau. Est-ce qu'on est du côté de la joie? Ça avance? Il y a un truc un peu d'envolé?
En fait, j'ai l'impression que c'est plus des groupes qui me donne envie de vraiment continuer à faire de la musique et à créer.
Ce qui n'est pas rien.
Voilà. En fait, je ne peux pas m'empêcher, quand j'écoute ça, d'être vraiment... Enfin, de tout décortiquer. J'ai vraiment une écoute analytique assez profonde. Et du coup, je crois que si je veux vraiment juste écouter de la musique, je ne vais pas mettre ça. Je sais pas, je vais mettre du Bieber ou j'en sais rien, un truc qui n'a rien à voir, quoi. Okay. Souvent quand je dis ça, les gens pensent que je rigole, mais non, ça m'arrive tout à fait d'écouter Justin Bieber et c'est très bien aussi.
Bah ouais, grave.
Ouais, là il y a un truc, vu que ma musique peut être proche de ça des fois, donc c'est presque du taf, quoi, quand j'écoute ça.
C'est du taf et à la fois c'est un morceau qui s'appelle, comme l'album, Love Changes Everything.
Ouais,
donc finalement l'amour n'est pas loin.
Exactement.
Est-ce que love changes everything? L'amour change tout, Robin?
Bah ouais, je pense que oui. Après voilà, on n'est pas. En fait, je pense qu'on n'est pas obligé de s'aimer tous les uns les autres, mais par contre, faudrait au moins qu'on s'écoute, quoi. Mais oui, c'est clairement il y a ça, ouais. Bah c'est lié à la méditation, voilà. À
tout l'amour de soi aussi, peut-être.
Exactement.
On dit quand même le nom de tes groupes?
Allez, j'ai un groupe avec deux amis très chers qui est La Jeune Fille à la Moustache. Donc ça, c'est un groupe basé sur Paris. Le 28 novembre, on va jouer à la cantine pas si loin à Pantin. Donc c'est du punk plutôt. Punk, électro-punk, électro-clash. J'ai un groupe qui s'appelle Trio Brume. Donc là, on a un album qui sort en février. Donc c'est plutôt là du jazz un peu expérimental, mais ambiante. Voilà, c'est jazz moderne, on va dire. J'ai un projet en solo avec lequel je sors un album là en décembre. Donc ça s'appelle juste Robin Intram. Et le nom de l'album, c'est Got a Light, point d'interrogation, qui est une référence au nain de l'apocalypse de Lynch.
Ok, on y revient.
Voilà, ouais, on y revient clairement, avec beaucoup de samples de l'univers de Lynch dans l'album. J'ai un dernier quand même, c'est nouveau, ça s'appelle RAS Trio. C'est avec un pote batteur qui s'appelle Antoine et un pote bassiste qui s'appelle Sacha, avec qui je travaille beaucoup sur tout l'aspect pédagogique. On fait des stages de musique improvisée, etc. Et on a ce trio qu'on vient de monter là cet été. On pose des micros et on enregistre que de l'improvisation, en fait. Voilà.
Trop bien. Ben, on salue tous tes potes et tous ces musiciens talentueux. On continue avec ton partage de texte. Robin, l'émission continue en mots, avec tes mots que tu as écrits. Alors, peut-être que c'était pour l'émission, peut-être que c'était il y a des années. En tout cas, c'est un texte que tu as voulu ou que tu as accepté de partager avec nous aujourd'hui. Est-ce que, avant de le lire, tu peux nous dire ce que c'est comme texte?
Ouais, là, pour le coup, c'était vraiment la question difficile pour moi parce que j'écris pas trop. Et je me suis rappelé que j'avais des carnets. Quand je voyageais, je notais des choses. Donc, en fait, je ne sais plus où je l'ai écrit. Je ne sais plus quand je l'ai écrit. C'est pas très récent. Je me demande si c'est pas l'Espagne ou... Ça doit être l'Espagne ou le Portugal, je ne sais plus.
Ok, écriture de voyage, donc.
Voilà, c'est ça, écriture de voyage.
Merci beaucoup, on t'écoute.
La fumée s'envole. Ici, on brûle tout avant que le soleil ne s'en charge. Il y a dans ces montagnes un silence assourdissant qui vous fait tout oublier. Le temps a gelé. Ici, on ne s'échappe pas. Le soleil est déjà là.
Entre la glace et le soleil, on continue avec ton œuvre phare. C'est marrant que tu parles d'Espagne parce que j'ai l'impression que là, l'œuvre dont tu vas nous parler se passe en Espagne.
Tout à fait. C'est un documentaire, un film documentaire que j'ai été voir au cinéma. Donc c'est Milena qui est ma copine qui m'emmène. On va souvent au ciné et j'aime bien ne pas savoir ce qu'on va voir parce qu'elle s'y connaît très bien, moi pas du tout. Donc je lui fais 100% confiance. Et donc je me retrouve dans ce film, clairement assez particulier quand même, que j'ai adoré, mais je m'attendais pas à ça.
Tu veux nous dire le titre et le réalisateur?
Ouais, alors le réalisateur, je pense que je vais plus m'en souvenir, donc il va falloir que tu m'aides.
Albert Serra.
Voilà. Et le titre, c'est Tardes de Soledad. Et voilà, et donc je me retrouve grosso modo devant un long métrage de quasiment 2 heures avec, pas une boucherie, mais pas loin. Et du coup, je ne m'attendais pas à ça, donc c'était assez intense. Alors en fait, là, il suit un toréador qui est chilien, je crois.
Ouais.
Moi, j'ai vu ça un peu, j'ai ressenti ça de deux manières. Donc il y a vraiment le côté, on filme dans l'arène, donc vraiment des plans, gros plans sur le taureau, sur tout ce qui se passe dans l'arène, donc qui est assez inhumain quand même, et même carrément. Et ensuite, où on filme juste le toréador dans sa chambre, aux côtés de son équipe, donc avec un langage très masculin de toute l'équipe, où ils ont des expressions hyper... on va dire testostéroné constamment, c'est assez particulier. En complet contraste avec la tenue qu'il a, où ça va être très moulant, c'est très coloré. Donc c'est un univers qui est assez passionnant, je trouve, parce que tu n'arrives pas à comprendre... moi, j'y connais rien du tout, c'est pas du tout ma culture, je connais pas l'histoire de la corrida, etc. Et du coup, c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est que j'ai pas eu l'impression que le réalisateur prenait parti forcément. Il se contentait, il avait à cœur de montrer comment ça se passait.
On écoute la bande-annonce. Tu parlais, Robin, de gros plans à l'image, parfois sur le taureau ou le toréador. Là, on entend dans la bande-annonce le souffle même, peut-être le dernier souffle du taureau.
Ouais.
Il y a des films qu'on va voir et qui nous marquent sur le moment, mais qui ne restent pas. Celui-là, il est resté en toi ?
Ouais.
Et clairement. Tu saurais dire ce qui fait qu'il est resté en toi ?
Ouais, la violence, clairement. Là, pour le coup, ça marque bien. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas du tout. Mais encore une fois, je pense que c'est lié au fait que ce n'est pas ma culture et que je ne m'y suis pas intéressé. Je ne l'ai pas vécu. Je n'ai absolument pas envie d'assister à une corrida. C'est que, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment on peut vivre là-dedans, en fait. C'est-à-dire que... Et ce n'est pas un jugement. Vraiment, ce n'est pas du tout un jugement. Mais on voit un animal, en gros, se faire massacrer. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, grosso modo, c'est quand même à la fin, il est mort, quoi. C'est ritualisé, etc. Mais les gens ont l'air vraiment de prendre du plaisir. Et j'arrive pas à me dire que c'est forcément tous des gens violents ou je pense pas que ce soit ça. Donc en fait, je comprends pas ce qui les amène dans cette arène. Et ça doit être, je pense qu'il y a des études sociologiques qui ont dû être faites, je sais pas, mais il y a forcément des choses, peut-être des belles choses qui font que ça existe, je sais pas. Mais c'est vrai que là, de mon point de vue à moi, dans ma salle de cinéma, quand je regarde ça, je suis un peu perdu, quoi.
En fait, j'ai l'impression que dans tous les cas, que ce soit avec les œuvres de David Lynch, ou la musique, ou là, ce film, t'es plutôt dans un rapport analytique et de... En fait, que ce soit de la compréhension ou de l'incompréhension, ce qui m'intéresse, c'est que quelque chose se passe en moi. Pas forcément du côté émotionnel, mais de toute façon, on ne va pas séparer à chaque fois rationnel, émotionnel. Mais quelque chose bouge en toi, en tout cas.
Ah ouais, bah ouais, c'est sûr. Bah, sinon, on se fait un peu chier, quoi.
Voilà.
Mais bon, c'est ma manière de vivre les choses, mais en effet...
On continue et on termine avec ta bribe de phrase.
Hey, listen.
Robin, on ne peut pas aimer tout le monde, mais on s'écoute, tu l'as dit au début de l'émission. Est-ce que tu peux nous dire une phrase que tu as entendue dans ton entourage ou peut-être que tu as lue dans un livre, on verra, qui t'a marqué pour une raison ou pour une autre? Et pourquoi cette phrase?
Je crois que c'était pour mon tout premier album. J'envoie un mail à un ami qui s'appelle Jim Funnel, qui est un super musicien, super gars. Je lui envoie un mail en disant, parce qu'il m'avait donné des cours à l'époque où je voulais aller m'endetter à faire des études aux États-Unis. Donc j'avais préparé un concours pour Berkeley, qui est une école à Boston. Donc il m'avait bien aidé, il était un mec super, donc après on est resté potes. Et je lui dis, bah voilà, j'ai sorti mon album et tout. Donc c'était il y a quelques années quand même, en 2017 je pense, un truc comme ça. Plus que des conseils, je lui demande, il me semble, de me dire un peu ce qui va ou ce qui va pas, ou... Tu vois,
un regard critique.
Voilà, un regard critique. Ouais. Et il m'a répondu, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Et à la fois, ça m'a marqué. Il m'a répondu, mais tu sais, moi, je peux te dire tout ce que tu veux, mais en fait, j'ai pas vraiment envie de le faire. Et je pense que ce qu'il faut que tu saches, c'est que les réponses que tu cherches, elles sont déjà en toi, en fait. Et donc, ça fait le lien avec ce que M. Lynch disait en début. C'est marrant, parce que je l'avais pas du tout prévu.
L'intérieur.
Pas du tout, ouais. Tout est lié là, mais en fait, il n'y a rien de...
En fait, on est piégés là. Ouais.
Voilà, donc c'est cette phrase-là de... les réponses que tu cherches, en gros, sont déjà là. Faut les trouver, quoi.
À méditer, Robin,
ouais,
du coup.
Tout à fait, à méditer.
Merci à toi d'avoir été la voix enchantée d'octobre 2025.
Avec plaisir, merci beaucoup.
À la réalisation, c'était Rosalie Bern, que je remercie également. On se retrouve le 18 novembre avec un nouveau portrait radio, toujours à 18h, sur Radio Campus Paris.